Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir, nous sommes les gentilshommes. Salut les gars.
Salut hello, Pascal. Hello. Salut Dan.
Et salut à tous. Salut Mitch et bienvenue dans le live Instagram des gentilshommes spécial confinement. Petit rappel de ce dont il s'agit. Hein, on a décidé de continuer à discuter entre nous et avec vous des sujets toujours des relations hommes-femmes en rapport avec le confinement. Donc pour ça, on se retrouve en live sur notre Instagram les gentilshommes les lundis soirs et jeudis soirs et on discute avec l'une d'entre vous. Ensuite, cet épisode est disponible dans notre flux de podcast sur lequel vous avez l'habitude de nous suivre, très nombreux, et on vous remercie. Avant de commencer, je remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, ils sont très nombreux, on a eu des tips, hein, je rappelle le dernier tip qu'on a eu de Jessica qui était assez gros, et je rappelle à tous ceux qui voudraient le faire que la page Tipeee est ouverte à tous, merci. Voilà, notre invité du jour c'est Claudia, salut Claudia.
Bonsoir.
Salut Claudia.
Hello. Et donc, Claudia est cofondatrice du compte Instagram Self Love Project. Connie ?
Ah, c'est à moi de parler, là.
C'est ça ? C'est toi qui attaques ?
Ah bah oui, bien sûr que où ai-je la tête ? Et t'as des lieux. Claudia, est-ce que c'est pour savoir un petit peu, où est-ce que tu es dans ton confinement, en couple ou seul ? En télétravail, chômage technique ? Est-ce que tu as de l'espace vital ou pas du tout ? Est-ce que tu es avec enfant ou sans enfant ?
Alors, je suis célibataire, donc seule dans mon confinement, en télétravail, puisque de toute façon, je travaille à mon compte, ouais. Avec un espace vital tout à fait correct. J'ai presque 38 mètres carrés, donc je ne me plains pas. Et pas d'enfant, mais un chat.
C'est pas mal.
Ça fait plus de poils.
Après, tout dépend où tu es en France. Hein, mais,
Je suis à Paris.
Mmh. Ok. Ah oui, est-ce donc que... là, dans 38 mètres carrés, c'est pas mal du tout. Quoi.
Oui.
Ouais. Est-ce que tu pourrais nous présenter donc Self Love Project ?
Yes. Alors, le Self Love Project, c'est un projet que j'ai monté il y a un peu plus d'un an avec une amie à moi. Et en fait, on propose du coaching en estime de soi et en relation amoureuse. En gros, notre créneau, c'est d'apprendre à s'aimer pour mieux aimer et se laisser aimer. Voilà, c'est une phrase un petit peu compliquée, mais c'est...
ouais. Et comment c'est né cette... Tu nous racontes un peu comment, comment c'est né ce projet ?
Alors, l'idée, elle est née il y a un peu plus de 2 ans. En fait, je venais de me séparer depuis à peu près 2 mois de mon ex-compagnon. Et on avait fait une petite soirée un peu trop arrosée avec Mélanie, qui est donc la cofondatrice du projet. Et en fait, on discutait, on se rendait compte qu'autour de nous, il y avait beaucoup de gens qui étaient en couple, mais dans des relations qui ne leur correspondaient pas forcément, qui ne leur correspondaient plus. Et que malgré cet état de fait, que peut-être qu'ils auraient mieux fait de se séparer, ils avaient du mal à prendre cette décision de partir. Et en réfléchissant, en fait, on s'est rendu compte que souvent, c'était un petit peu les trois mêmes problématiques qui faisaient que les gens ne franchissaient pas le cap de la rupture. Mm-hmm. Et en général, c'était soit parce qu'ils avaient peur d'être seuls, ils ne savaient pas être célibataires, soit parce qu'ils avaient peur de faire du mal à l'autre en partant, soit parce qu'ils avaient peur de ne jamais retrouver personne et de finir dévorés par leur chat ou leur poisson rouge au chat. Okay. Voir un peu les trois mélangés, hein, ça dépend. Et du coup, en fait, en tirant le fil, on s'est dit finalement, ce qui est un peu le point commun à tout ça, c'est l'estime de soi. C'est-à-dire que ce qui fait que ces gens ont ces peurs-là, c'est que souvent, ils ne se connaissent pas assez, ils ne s'aiment pas assez, ils ont tendance à prioriser la relation ou l'autre par rapport à eux-mêmes. Et en fait, on s'est dit, on va aller proposer du coaching amoureux, mais en le plaçant sous l'angle de l'estime de soi. et de traiter l'individu d'abord plutôt que la relation uniquement.
D'accord. Du coup, vous avez fait une, parce qu'il y a, un marché du coach. Vous avez fait une étude de marché et vous êtes dit c'est là-dessus qu'on veut aller.
Bah, on n'a pas tellement fait d'études de marché. En fait, vraiment, on a eu cette idée. À la base, on était plus parti sur de faire du coaching en rupture. En fait, au début, c'était ça notre idée, vraiment.
En fait, vous poussez les gens.
C'est vrai que d'après ta présentation, c'est ça. Hein.
Ouais, à la base, c'était vraiment du coaching en rupture.
Genre, vous savez pas comment arrêter votre relation, on va vous aider. C'est marrant parce que c'est l'inverse des coachs habituels qui disent vous savez pas comment vous mettre en relation, on va vous aider. Toi, c'est le contraire. C'est genre, t'es sur la pente glissante. Allez, on y va, on va te donner un coup dans l'épaule et tu vas partir plus vite.
Oui, à la base, c'était vraiment ça. On avait centré là-dessus. Mais du coup, en réfléchissant et en partant après sur cette idée d'estime de soi, on s'est rendu compte que finalement, c'était plus large et que ça englobait la rupture, mais ça englobait aussi le post-rupture, le célibat et après aussi comment aussi avoir une vie de couple épanouie et peut-être aussi aller déconstruire certaines idées qu'on a de l'amour, parce que ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on vit dans un monde, en tout cas en Occident, en France, où on peut choisir son partenaire. Donc, c'est génial. Mais en même temps, on ne nous apprend pas forcément comment choisir. On ne nous apprend pas ce que c'est que l'amour, vraiment. Et finalement, les idées qu'on a de l'amour, on les construit au travers des livres, des films, des chansons. Et malheureusement, souvent, ça parle de l'état amoureux. Ça ne parle pas de l'amour, vraiment. Et donc, on a cette fausse idée que, il faudrait que ce soit toujours la passion, que, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Et on s'est rendu compte, et moi la première, que c'est des choses qui m'avaient qui étaient vachement délétères, moi, pour ma propre vie sentimentale. Et on avait envie un peu d'aller faire un peu de la pédagogie aussi autour de tout ça, d'aller accompagner les gens autour de cette déconstruction.
D'accord. Et donc, c'est ça que vous vendez dans vos formations, dans vos coachings.
Ouais, c'est ça.
Je peux dire formation pour un truc comme ça.
Non, en fait, il y a deux choses. C'est que je fais des accompagnements individuels. Donc là, c'est vraiment du coaching. Et après, il y a des programmes en ligne qu'on fait aussi. Où là, c'est pas du coaching à proprement parler parce que l'accompagnement n'est pas individuel. Mais voilà, on aborde toutes ces questions-là autour de l'estime de soi et de l'amour du couple en général.
D'accord. Avant de rentrer dans le détail des coachings individuels et du programme en ligne, est-ce que tu peux nous dire qui sont tes clients? C'est qui est-ce qui vient chez toi?
Je pense qu'on a quand même majoritairement des clients qui nous ressemblent, c'est-à-dire plutôt entre 25 et 35 ans. Moi, j'ai 31 ans, donc je pense que la fourchette est entre 25 et 35 ans. On a pas mal de Parisiens qui nous suivent, parce qu'on est à Paris aussi. Donc je pense qu'on attire un petit peu les gens qui nous ressemblent, mais on a aussi des gens un peu partout. On a majoritairement des femmes. C'est notre grand défi de réussir à attirer plus d'hommes. C'est notre objectif. Après, je pense qu'Instagram, ça reste un média très féminin. Donc, forcément, il y a ce biais-là aussi. Mais voilà, pour l'instant, notre clientèle, elle est un peu comme ça.
Ouais. Et tu disais, vous avez lancé ça il y a un peu moins d'un an, c'est ça ?
Un peu plus d'un an. En fait, on a
un peu plus d'un an, pardon.
Ouais. En fait, on a eu l'idée il y a 2 ans. On a créé le compte Instagram début janvier, fin décembre 2018. Donc ça fait un peu plus comme je travaillais encore, j'avais pas vraiment le temps de m'en occuper, donc on va dire qu'on a vraiment lancé l'activité à 100% depuis que j'ai démissionné, donc depuis fin juin début juillet 2019.
Et donc c'est une activité à plein temps pour vous deux là?
Non, juste pour moi, parce que Mélanie elle travaille encore.
Ok.
Juste moi qui suis à plein temps.
Et pour toi, c'est vraiment une activité à plein temps? C'est-à-dire que tu passes tes journées à faire du coaching ou alors à réfléchir à comment développer explique-nous un peu qu'est-ce que tu fais concrètement tous les jours.
Pendant les 6 premiers mois, en gros, entre juin et là, janvier-février, j'étais en formation parce que je passais ma certification de coach. Donc ça prenait pas mal de temps. Plus l'auto-formation, parce que j'ai une formation de coach, on va dire, un peu généraliste, donc life coach et coach professionnel. Mais il n'y a pas forcément de formation en France qui soit centrée sur du love coaching, on va dire, du coaching relationnel. Donc après, c'est beaucoup d'auto-formation. J'ai lu beaucoup de livres de psychologie, toutes ces choses-là, voilà. Et depuis, mon temps, c'est beaucoup d'écrire les contenus pour Instagram, Facebook, etc., produire des contenus pour les réseaux sociaux, parce que mine de rien on se rend pas compte mais c'est hyper chronophage.
Bah oui, c'est sûr. Ouais,
ouais. Et voilà.
Mais juste la formation que tu as de coach, en fait, c'est quoi ? C'est une formation officielle ? Enfin, c'est intéressant.
Ouais, c'est une formation diplômante et certifiée, reconnue par l'État. Pour moi, c'est... Après, voilà, le marché du coaching, c'est quelque chose qui commence à se développer beaucoup en France, quel que soit le sujet central. Hein. Il y en a de plus en plus. Il y a des gens qui se déclarent coach, qui n'ont pas forcément de formation. Voilà, chacun après a son truc. Moi, j'avoue que pour moi, c'est quelque chose qui était important. Parce qu'en plus, alors un coach, ce n'est pas un thérapeute, mais on est quand même dans la relation à l'autre. Il y a une déontologie à avoir et il y a une responsabilité dans la relation qu'on crée avec la personne qu'on a en face de soi, surtout quand là, potentiellement, c'est des gens qui sont dans un état potentiellement de fragilité émotionnelle. Donc, pour moi, c'était important d'avoir cette certification pour avoir cet ancrage vraiment professionnel, quoi.
En deux mots, qu'est-ce qu'il y a dans cette formation ? Mais vraiment rapidement, il y a de la psychologie, des choses comme ça ?
Ouais, il y a de la psychologie et de la méthodologie aussi.
D'accord, ok. Pour terminer un petit peu sur cette présentation, donc il y a du coaching individuel.
Ouais.
Tu rencontres des gens, tu nous dis en deux mots et puis après on aura des questions là-dessus.
Ouais.
Programme en ligne. Et puis éventuellement, combien ça coûte voilà.
Alors, les coachings individuels, il y a deux formules. En gros, soit il y a des formules de ce que j'appelle de déblocage express. Donc, ça dure à peu près 1h30. C'est quand les gens, ils ont juste un petit problème ou en tout cas, qu'ils veulent parler juste sur un truc très précis. Donc, ça, il faut compter 140 € pour 1h30 de coaching.
Si je peux juste me permettre, qu'est-ce que tu appelles un petit problème ?
Non, mais c'est pour ça, petit problème, c'est pas... C'est... Mais disons qu'il y a des gens qui ont des fois un problème hyper précis à un moment donné, qui ne sont pas forcément prêts aussi à s'engager dans un coaching plus long, parce qu'un vrai coaching, on va dire, ça prend entre 2 et 3 mois. Donc, c'est un autre engagement.
D'accord, ouais.
Et donc, des fois, ils ont juste besoin d'un avis extérieur qui soit l'avis de quelqu'un de plus objectif que quelqu'un de leur entourage, parce que... Les amis, même d'accord. S'ils sont pleins de bonne volonté, ils ne peuvent jamais avoir un avis complètement objectif. Ce n'est pas possible.
Et ça, tu nous as dit, c'est combien ? On a parlé
de 140 € pour l'heure et demie de déblocage. Et après, je fais des accompagnements sur du plus long terme, où là, ça dure 3 mois. Et une douzaine de séances d'une heure et demie. Et donc là, forcément, c'est un peu plus cher. C'est 1 500 € pour les 3 mois d'accompagnement.
D'accord. C'est quoi comme, enfin c'est l'accompagnement, c'est quoi, c'est hebdomadaire ?
Quelle fréquence, ouais.
Ouais, c'est hebdomadaire. En gros, sur 3 mois, il faut compter une séance d'1h30 en moyenne par semaine.
Par semaine,
avec,
d'accord.
Avec des exercices à faire entre les séances en fonction des étapes de coaching, etc.
Alors attends, t'as dit exercice, c'est quoi comme genre d'exercice ? Parce que du coup moi, quand j'entends exercice et coaching, moi je pense à, tu vois, la salle de sport avec genre bon bah faut que je rentre, faut que je fasse mes petites fentes, mes extensions entre deux rendez-vous quoi. Mais là, sans nous dire exactement de quoi il en retourne, mais au moins un peu dans quel univers on se fond au niveau des exercices quoi.
Ça peut être des exercices de réflexion. Sur une question précise, ça peut être souvent c'est des exercices de réflexion ou d'écriture. Par exemple, je sais pas, aller lister les choses que t'aimes chez toi ou que t'aimes pas, et après on va aller tirer des choses, on va aller tirer les fils, parce que ça paraît simple, mais si je te dis liste-moi 10 choses que tu apprécies chez toi, si tu ne t'aimes vraiment pas, ça peut être vachement difficile. Et donc, mine de rien, ça déjà de le faire, c'est déjà un exercice en soi. Donc voilà, c'est rien de monstrueux, mais c'est un travail qui est engageant, effectivement. Et
j'aimerais bien prendre le coaching dans le sens chronologique. Ça se passe comment au départ ? C'est quoi le point de départ et comment tu déroules ta relation avec ton coaché ?
Alors, un coaching, la première étape, on se présente. Je présente... la déontologie du coaching, etc.
C'est quoi la déontologie du coaching ?
Donc c'est que c'est pas une thérapie.
Ouais.
C'est que la responsabilité, elle est partagée et que moi j'ai une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. C'est-à-dire que je donne à mon coaché les outils pour qu'il avance et pour qu'il aille mieux. Mais après, la mise en pratique, c'est lui qui a les clés en main, en fait.
D'accord.
Et ça, c'est vachement important, la responsabilisation, parce que mine de rien, et après, c'est la nature humaine, hein, c'est comme ça, on a tous tendance à vouloir se déresponsabiliser, pour faire porter sur l'autre les choses. Et prendre les choses en main et prendre sa part de responsabilité, c'est déjà le premier pas, quoi.
D'accord, ouais, comme dans une thérapie. D'accord,
oui,
ok.
Comme dans une thérapie.
Ouais, donc vous faites le point.
Ouais, on fait le point. Donc, la personne va me raconter pourquoi elle est là, quelle est, d'après elle, sa problématique, sa demande, en fait. Ouais. Et après, on va aller faire le point sur plus en profondeur sur sa vie à ce moment-là, où est-ce qu'elle en est, qui elle est. En fait, elle va aller apprendre à se connaître, à se découvrir vraiment. Parce que souvent, la problématique, et encore plus là sur des questions relatives aux relations amoureuses et à l'estime de soi, c'est que les gens ne se connaissent pas forcément. Et donc, c'est très important de faire ce travail d'apprentissage de soi, en fait, d'aller se rencontrer.
Comment ça se passe? Tu peux nous donner un exemple peut-être concret pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, se connaître soi? Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, alors se connaître soi, ça va être par exemple de connaître ce qu'on appelle en coaching ses valeurs. Donc les valeurs en coaching, en gros, c'est ce qui constitue ta structure psychique. Donc c'est vraiment ce que tu es. Donc par exemple, en valeurs, il peut y avoir la liberté, la créativité, la famille. En fait, il y en a 200 ou 250 des valeurs, donc c'est très large. Mais en gros, en moyenne, chaque personne a 10 valeurs qui lui sont propres. Et c'est des choses que tu développes tout au long de ta vie. Et c'est quelque chose qui est très important à connaître parce que quand tu connais tes valeurs, par exemple, si je sais que moi, ma valeur, c'est la créativité, eh bien, je peux aller voir si dans ma vie quotidienne aujourd'hui, cette valeur-là, je la nourris, c'est-à-dire est-ce que je fais en sorte de remplir ma jauge, en fait, de valeurs. Et si ce n'est pas le cas, comment je peux faire? Est-ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas, du dessin, du chant, peu importe. Mais voilà, pour aller remplir cette jauge. Parce que quand tu remplis cette jauge de valeur, plus ta valeur, elle est nourrie, plus toi, tu es en énergie positive.
Ok. Voilà. Si je résume un tout petit peu ce que tu as dit, à part, jusque là où on en est, c'est si tu comprends les valeurs qui t'animent, ça te permet de nourrir ton amour propre pour ne plus avoir peur d'être seul, de ne pas trouver quelqu'un, etc.
Exactement, ça fait partie, ça fait partie des étapes, effectivement, pour apprendre à s'aimer, donc avoir plus cette peur de la solitude, potentiellement.
D'accord. Donc là, c'est des échanges avec, avec le coaché.
Ouais.
Qu'est-ce qui, à la fin de ça, tu lui dis, on se revoit dans une semaine, il faut que tu trouves tes valeurs, c'est ça?
Ouais, alors en général, la partie là où on creuse l'existant, ça peut prendre 2 ou 3 séances. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, tu laisses la personne parler. Et déjà, moi, dans ce que dit la personne, à travers son discours, j'entends déjà qu'elle exprime ses valeurs dans les anecdotes qu'elle me raconte, dans ses histoires de vie. Donc, je vais aller noter des choses. Et puis après, je vais aller rebondir. Je vais dire, ah, tu m'as dit ça. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose? Voilà. Donc, après, on creuse ensemble. La personne, en général, fait le travail sur ses valeurs de son côté. Et après, on reprend et on va pointer valeur par valeur qu'elle m'explique ce que ça veut dire pour elle ou pour lui dans sa vie. Et on fait le point, est-ce que cette valeur-là, aujourd'hui, est-ce qu'elle est plutôt à 0 ou est-ce qu'elle est à 10 sur 10? Voilà,
d'accord.
Donc, tout ça.
D'accord. Et donc, alors, où est-ce que tu l'emmènes comme ça?
Du coup, donc, sur l'apprentissage, donc, il y a les valeurs. Après, on va aller aussi voir quelles sont les croyances qu'elle peut avoir, parce que ça, c'est vachement important. On a tous des croyances limitantes. Alors, il y a aussi des croyances aidantes. Donc, les croyances aidantes, c'est ce qui te permet d'être bien dans ta vie. Donc, ça, c'est bien. Mais on a surtout beaucoup de croyances limitantes.
Les croyances limitantes, ça veut dire quoi, ça, une croyance limitante?
Alors, une croyance limitante, c'est une croyance qui va t'empêcher de faire quelque chose ou qui va te bloquer... qui va te faire voir les choses sous un prisme qui n'est pas la réalité parce que tu as cette certitude. C'est-à-dire, par exemple, je pourrais dire, de toute façon, tous les hommes sont infidèles.
Ça pourrait être des clichés.
Voilà. Souvent, les clichés, c'est des croyances collectives qu'on va s'approprier. Donc, les croyances limitantes, elles peuvent être nombreuses. Ça peut être des croyances sociales, on va dire, ou alors des choses que nos parents nous ont transmises, ou alors des choses qu'on a récupérées de nos propres expériences personnelles.
Ça peut être aussi sur soi-même, genre de dire, moi, de toute façon, je ne sais pas draguer, par exemple.
Exactement.
Je sais pas,
Exactement. Ça, c'est une croyance limitante, une pensée que tu as qui n'est pas forcément... Alors, ça peut être le reflet, il y a quand même un ancrage dans une forme de réalité, bien sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va t'empêcher de faire des choses dans ta vie, ou en tout cas, de faire des choses que tu as envie de faire. Si ça t'empêche de sauter à l'élastique et que tu n'as pas envie de sauter à l'élastique, ce n'est pas très grave. par contre, si ça t'empêche d'aller draguer ce mec ou cette nana alors que tu as vraiment envie de le faire, ça peut être un peu embêtant.
Alors, comment tu les débloques, les gens?
Le travail sur les... Déjà, la première étape, c'est d'aller prendre conscience, d'aller conscientiser qu'on a des croyances limitantes et quelles sont ces croyances. C'est déjà le premier pas parce qu'il y a plein de gens qui ne s'en rendent pas compte. Et après, ça, c'est... C'est un peu enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais en gros, ce qu'on appelle en coaching, on va aller ramollir la croyance, c'est-à-dire qu'on va aller montrer à la personne que cette croyance n'est pas le reflet d'une réalité, mais le reflet d'une pensée personnelle. Et après, on les remplace par des croyances positives, parce que la nature n'aime pas le vide et il faut mettre quelque chose à la place. Si tu fais que enlever, ça ne marche pas.
Et tu remplaces par quoi, par exemple ?
Bah, par exemple, au lieu de te dire « tous les hommes ou toutes les femmes sont infidèles », tu peux te dire « je peux faire confiance aux hommes ou aux femmes ». Enfin, voilà, c'est des choses comme ça, ça fait un peu méthode Coué, mais faut trouver quelque chose qui soit plus positif.
Ouais, mais là, comme ça, tu vois, je me dis, tu remplaces une croyance par une autre. Ouais. Est-ce que tu vas pas vers l'individu ? Tu peux pas aller vers l'individu, c'est-à-dire remplacer « tous les hommes sont infidèles » par « je vais trouver une personne qui sera fidèle ». Tu vois ce que je veux dire ?
Si, bien sûr.
Je te dis la nuance.
Bah, de toute façon, après, là, les croyances, la croyance de remplacement, on la construit dans la relation avec le coaché. Donc, c'est pour ça, là, ça reste des généralités, mais évidemment, ça dépend de la personne qu'on a en face. De toute façon, le coaching, et ça fait partie de ce qu'on explique aux gens en début de coaching, c'est pas moi qui ai les clés, c'est pas moi qui ai les réponses. Souvent, les gens, ils viennent parce qu'ils voudraient que je leur donne les réponses, ils voudraient que je les sauve, entre guillemets, que je leur dise quoi faire. Toutes les réponses, elles sont à l'intérieur d'eux. Moi, mon travail, c'est juste de poser les bonnes questions, d'appuyer aux bons endroits pour que les réponses sortent. En
fait. D'accord. Quand tu dis ça, pardon dame, j'y vais. Quand tu dis ça, tu penses à ceux qu'on voit sur Internet, des coachs en séduction qui te donnent des techniques, c'est ça ? Qui disent, ah ouais, si tu veux emballer comme ça, il faut faire comme ça. Si tu veux accoster, il faut faire comme ça. C'est à ça que tu penses quand tu dis ça ?
Là, je ne pensais pas forcément à eux, mais oui, il y a ça aussi. Alors après... c'est vrai que moi, le coaching en séduction, c'est un truc que je... Alors, peut-être parce que déjà, je suis une femme et je pense que malgré tout, comme sont construits les coachings en séduction aujourd'hui, ça s'adresse plutôt à des hommes. Mais oui, de toute façon, le clé en main, ça marche dans une certaine mesure et ça ne marche pas jamais complètement. Mais non, mais en fait, c'est juste que même moi, enfin, je ne sais pas, ça a dû vous arriver déjà, quand on n'est pas bien, parce qu'on est célibataire ou parce que dans notre couple, ça ne va pas ou parce que là, on court après quelqu'un depuis 6 mois et que cette personne, elle ne nous répond pas, etc. Moi, j'ai des gens qui viennent me parler sur Instagram, on en a beaucoup en DM, et les gens, ils me disent « qu'est-ce que tu penses que je devrais faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, en fait, ils veulent un peu que je leur donne la réponse, ce que je comprends, parce que j'ai été dans la même situation et je voulais qu'on me donne la réponse aussi. mais du coup, c'est de leur expliquer, et en général, je leur pose des questions parce que la réponse, elle est en eux, en fait. Ils le savent déjà. Déjà, quand tu poses la question, c'est qu'en général, tu as la réponse, mais tu n'as pas forcément envie de la voir.
Et donc, je continue, messieurs. Hein. Et donc, là, tu arrives à un moment où la personne, ça y est, ses croyances, elles sont remises en cause. Il est comment, là ? La personne coachée, elle est mûre, là, tu peux la lancer, elle peut partir sur le... Elle peut quitter, soit... Elle est mûre pour séduire. Comment ça se...
Alors après, on va se projeter, on fait une projection dans l'état désiré, ce qu'on appelle ça en coaching. Donc, on se projette dans le futur que la personne, elle aura envie d'avoir. Donc, si elle est célibataire, elle imagine son futur un peu idéal, entre guillemets. Si j'aime pas ce mot, mais en gros, c'est de faire la projection positive parce que c'est toujours pareil, il faut se mettre en énergie positive pour ensuite être bien et pouvoir rayonner. Et oui, après, on met en place un plan d'action. En fait, c'est ça surtout. Donc, un plan d'action plus ou moins sur un temps plus ou moins long selon la problématique qui a été identifiée et l'objectif qui a été décidé.
Et alors, en deux mots, c'est quoi le plan d'action ?
C'est tout simplement, c'est une espèce de tout doux, sauf qu'en face de chaque action, il faut qu'il y ait une date et une façon d'évaluer concrètement que tu as réussi l'action. Donc, ce n'est pas la liste de bonnes résolutions du nouvel an où tu dis « cette année, je vais faire du sport ». Tu vois. C'est à partir de lundi prochain, je vais faire du sport 2 heures par semaine, toutes les semaines, toute l'année. Voilà. Enfin, tu vois, il faut que ce soit hyper cadré et que ce soit très précis pour que ce soit considéré comme un objectif acceptable en coaching.
D'accord, c'est des décisions actives.
C'est ça.
D'accord, ok. Et là, ça marche.
Il faut que ce soit engageant, en fait.
C'est intéressant parce que Connie, tu faisais la comparaison avec les coachs en séduction et moi, ça m'a presque plus fait penser à de la psychothérapie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Enfin, tu trouves qu'il y a quelle est la différence pour toi entre ce que tu fais toi et un vrai psychothérapeute ?
Alors, la différence, c'est que quand tu vas en thérapie, enfin moi, c'est quelque chose que je connais bien parce que j'ai été en thérapie moi-même, etc. Donc c'est vrai que c'est un monde que je connais et je pense que je me nourris beaucoup de ça. Donc c'est peut-être pour ça qu'effectivement, il y a un petit peu des reflets. Mais clairement, moi, c'est pas de la thérapie que je fais parce qu'en thérapie, tu vas quand même chercher dans le passé, tu vas aller beaucoup fouiller, tu vas aller chercher dans l'enfance des gens, etc., toutes ces choses-là. En tout cas, surtout en psychanalyse, enfin, ce qui est ce que je connais mieux moi, mais en coaching, tu te projettes dans le futur. C'est-à-dire que tu vas quand même regarder le passé parce que c'est important, juste de savoir que ce passé-là, il existe. Mais tu ne vas pas aller, te creuser complètement. L'idée, c'est de regarder en avant et de trouver des solutions et des objectifs à mettre en place pour avancer. Et clairement, c'est pas du tout antinomique de faire un coaching et de faire une thérapie en même temps. Moi, j'ai des gens que j'ai eus au travers des programmes ou même au travers de coaching individuel qui étaient en thérapie à côté et qui avaient quand même besoin d'un coaching en parallèle de ça. Parce que c'est pas la même dynamique. En thérapie, le thérapeute... alors après, il y a plein de thérapies. Hein, donc voilà, c'est... Mais sans rentrer dans le détail... Le thérapeute, il est là pour t'écouter, pour aller voir le passé ou le présent, mais il va pas forcément te donner des exercices. Enfin voilà, c'est pas la même dynamique supplémentaire.
Mais du coup, toi, tu te concentres beaucoup sur le fait que le rapport de la personne avec elle-même. Ouais. Mais est-ce que tu donnes aussi des conseils très précis, par exemple? Typiquement, une jeune femme ou un jeune homme qui vont venir te voir et vont te dire bah, « Tiens, justement, je suis en couple avec cette personne. Regarde. » Tu vois, par exemple, ils vont te montrer des SMS, des échanges. Est-ce que toi, tu donnes des conseils précis et parce que j'imagine, quand tu vas voir un coach, tu as aussi envie d'avoir une réponse. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, les gens, des fois, la réponse, enfin, évidemment, elle est en eux. Mais toi, ils te demandent des trucs concrets, non, j'imagine?
Ouais, alors, et c'est là, c'est la difficulté du coaching, c'est qu'on n'est pas des conseillers non plus. Et la frontière est très fine, et effectivement, c'est pas facile de jongler. mais en général, si les gens me posent les questions, là, comme tu as dit, en fait, je repose des questions, moi, derrière. En fait, je les renvoie toujours à...
Tu donnes pas de réponse?
Je donne pas forcément de réponse. Je les laisse
mais
trouver
du coup, les gens sont contents quand même.
Eh ben les gens sont contents, mais parce qu'en fait ça les oblige à réfléchir. C'est-à-dire que des fois, tu sais, il suffit de, en posant une question, ça te permet de regarder le problème sous un autre angle. Et en fait, en regardant sous un autre angle, eh ben en fait tu trouves la réponse. Après, bien sûr, des fois ça dépend des problématiques des gens. Des fois, peut-être que je donne un petit peu des conseils, mais en tout cas, je ne vais pas dire à la personne, je pense qu'il faudrait que tu le quittes, même si c'est une certitude.
C'est quoi la problématique qui revient le plus souvent? Est-ce que c'est quoi? C'est des histoires de ghosting, de friendzone, de couple?
Ghosting, pas tellement. Je pense que le plus souvent, c'est des gens qui se retrouvent dans des histoires où ils courent un peu après quelqu'un pendant des semaines, voire des mois.
La friendzone?
Ouais. Je dirais pas que c'est la friendzone parce que je pense que la personne en face, elle est pas forcément pas intéressée. Je dirais que c'est souvent des gens indécis ou des gens qui sont pas à ce stade encore dans leur vie affective.
Je pense que c'est un peu ça la friendzone. Quand l'autre est dans la décision et que justement toi, t'es dans le genre. Quand est-ce qu'elle se décide quoi? Mais est-ce que tu as beaucoup justement de questions sur ce genre de problématique?
Ah oui, je pense que la problématique de j'ai quelqu'un d'indécis en face de moi, le lundi il dit oui, le mercredi il dit non et le jeudi il dit oui, c'est assez fréquent. Je pense que c'est...
Sachant que, comme tu nous as dit, la majorité des gens qui te contactaient étaient des femmes, donc la personne indécise, c'est souvent un homme. D'ailleurs, tu as des statistiques. Enfin, de ce que tu as constaté, c'est on te contacte plutôt pour des relations hétérosexuelles.
Majorité, mais on a aussi des couples homosexuels. On essaye d'être le plus inclusif. Enfin, déjà, quand j'écris, j'essaie d'être le plus inclusif, c'est-à-dire que je m'adresse pas qu'à des femmes. Mais c'est pas. Enfin voilà. Et oui, on a aussi des couples homosexuels. C'est pas la majorité des gens qu'on a, mais ouais.
Ouais. D'accord. Ouais. Connie, oui, vas-y.
Je voulais savoir comment ça veut, les résultats. Ça marche, ça marche pas. Comment les gens s'en sortent, tu vois?
Ils s'en sortent bien. Pour l'instant, les gens que j'ai accompagnés, c'était surtout des gens qui étaient célibataires et qui avaient besoin de remonter leur estime d'eux-mêmes. J'ai pas encore fait de l'accompagnement sur des gens qui étaient en couple et qui hésitaient à se séparer ou non. Mais en tout cas, à chaque fois, les retours sont hyper positifs. Les gens me disent que ça leur a permis d'avoir une autre vision d'eux-mêmes aussi, de se poser des questions qui ne se posaient pas forcément. Et puis, en fait, c'est surtout de faire la démarche. Je pense que ça débloque quelque chose parce que c'est commencer à s'autoriser à se donner cet amour à soi, ce qu'on ne fait pas, qu'on va beaucoup donner aux autres, surtout quand on ne s'aime pas assez. On donne beaucoup d'énergie aux autres en espérant qu'ils vont nous aimer en retour. Et donc, ce que je leur dis, c'est toujours ça, c'est cette énergie que tu donnes à l'extérieur, essaye de, de la retourner à l'intérieur.
Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit. Là, tu as dit qu'il y avait des gens qui venaient te voir en couple et peut-être que tu les pousses vers la sortie ou pas. Mais quand c'est un seul des deux membres du couple qui vient te voir, en fait. C'est toujours un seul.
Ouais.
Donc, en fait, tu en coaches un. Quand tu fais ça, tu n'as que son point de vue. Tu vois ce que je veux dire, c'est genre, si tu as un couple, tu as le mec qui vient te voir et il dit « Ouais, fais ça, je pense que machin. » Mais du coup, tu n'as jamais son point de vue à elle et ça te suffit quand même pour pouvoir guider la personne qui vient te voir, l'aider, l'aiguiller.
En fait, c'est pour ça que je te dis, en fait, comme je ne fais pas du conseil, ça suffit dans la mesure où, en fait, moi, la personne, quand elle me sort son histoire, je ne vais pas lui dire « Ah, vu ce que tu m'as dit, je pense que tu devrais la quitter ou que tu ne devrais pas la quitter. » En fait, c'est toujours, comme tu renvoies la personne à elle-même et que tu la questionnes, même si t'as que sa partie de l'histoire, ça suffit déjà pour commencer à débloquer des choses, en fait.
D'accord.
Et est-ce que t'as vu justement des couples, enfin, contrairement à ce que tu pensais, des couples se reformer, où t'as une majorité de couples qui après ton coaching se séparent?
Je sais pas si c'est très vendeur, mais après, moi je fais partie des gens qui pensent sincèrement qu'il vaut mieux être seul que
mal accompagné.
Alors c'est pas forcément mal accompagné, mais effectivement avec quelqu'un qui nous correspond plus, pas.
Est-ce que c'est vrai ça vraiment?
Ça j'en suis certaine.
Non, mais je sais pas, c'est un point de vue. Enfin, tu vois, donc toi tu penses vraiment qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné?
Bien sûr. Ça, j'en ai une certitude absolue. Enfin, en tout cas, pour l'avoir de mon point de vue personnel, et même, c'est ce que j'applique dans ma vie personnelle.
Non, mais de toute façon, on est là pour échanger nos points de vue à nous. On ne fait pas de généralité, donc c'est vraiment, je parle de toi.
Et moi, c'est comme ça que je vis ma vie personnelle aussi. J'étais dans des relations qui ont duré des années, ça n'allait plus, je suis partie à chaque fois, parce que pour moi, oui, bien sûr, c'est important d'être en couple, etc. Mais ma propre personne, d'abord, est plus importante. Et si je ne suis pas heureuse dans ma relation et si je me perds, etc., je préfère partir. Tu vois, la dernière fois, je suis partie alors que je devais me marier 8 mois après. Ça m'a pas empêché de partir.
Huit mois, ça va. Tu aurais pu te barrer 8 minutes avant.
sur l'hôtel.
Sur l'hôtel. Et une question, est-ce que ce travail-là de coaching que tu fais, ça t'aide, toi, dans ta vie sentimentale, du coup?
De toute façon, clairement, je pense que c'est comme quand on devient thérapeute, hein, y a pas de mystère. Hein, quand tu vas dans certaines voies, c'est qu'en général, il y a un besoin aussi personnel. Donc, je pense qu'avant tout ce travail, je l'ai aussi fait pour moi. Oui, je pense que ça m'aide beaucoup.
Ça t'aide. Tu le sens dans ton rapport, quand tu as des relations, quand tu vas vers les gens ou quand les gens viennent vers toi, tu sens que ces 2 années de coaching, ça t'a nourri, ça t'a rendu différente?
Déjà, moi, je sais que du coup, entre la fin de ma dernière relation, donc il y a un peu plus de 2 ans, et donc le moment où j'ai commencé à rentrer sur ce chemin-là, et maintenant, j'ai beaucoup évolué. Mais déjà, je le vois vis-à-vis de moi-même, c'est-à-dire que je sais que je suis vachement plus sereine, je suis beaucoup plus dans le lâcher-prise, je suis beaucoup plus épanouie. Et oui, du coup, dans mes relations aux autres, forcément, ça se ressent, quoi.
Est-ce que on va parler un peu du confinement parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Tu avais une autre question.
Non, mais parlons du confinement. Si j'ai encore une question,
allez vas-y. Et après on passe au confinement.
Nous, sur les 3 ans de Gentilhomme, on voit une espèce de, je vais appeler ça un peu vulgairement, une crise de l'engagement. Tu vois, c'est-à-dire on peut se rencontrer, mais quand il s'agit de passer à l'engagement, c'est une autre paire de manches. Est-ce que toi tu perçois ça? Et est-ce que tu travailles là-dessus avec tes coachés?
Je pense qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui viennent me voir en me disant « j'ai peur de l'engagement ». Après, cette peur de l'engagement, il faut la creuser parce que je pense que chez chacun, elle peut avoir une peur, ce qu'on appelle une peur racine, c'est-à-dire le vrai truc qui est ancré, qui est différente selon l'histoire de chacun. Et donc, c'est ça qui est à aller creuser parce que tu peux avoir peur de l'engagement parce que, T'as peur de d'être envahi dans la relation par l'autre, ou enfin en fait il peut y avoir plein de choses. Mais je pense qu'aussi cette peur dans l'engagement, elle peut venir du fait que, bah, ce que je disais tout à l'heure, l'image qu'on se fait de l'amour et du couple, des fois c'est, on va te dire, bah il faut que tu trouves la personne, la bonne personne pour toute ta vie. Du coup, ça a un côté un petit peu anxiogène parfois, je pense, d'autant plus qu'on est à une époque où on a envie d'être libre et enfin voilà. Mais pour moi, tu peux être libre et être en couple et c'est pas du tout antinomique. Donc ça dépend comment tu te projettes. Mais je pense que cette peur de l'engagement, on peut commencer à la casser en se disant, en fait, finalement, quand je me mets avec quelqu'un, même si j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, si c'est mon souhait, je sais jamais si ça va durer le plus longtemps possible, parce que la vie n'est qu'incertitude. Et qu'en fait, il faut un peu... Pour moi, l'engagement dans un couple, il se reprend un peu tous les matins, si tu veux. C'est-à-dire qu'un peu tous les matins, tu te lèves et tu dis, aujourd'hui, je fais le choix de me réengager dans ma relation. Un jour de plus, quoi, tu vois.
Ah ouais, tous les matins, carrément.
Non, mais j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est un engagement qui est actif. C'est pas juste, on s'est marié, ça veut dire que ça va durer 30 ans, et puis on fait plus d'efforts, on fait plus rien, et puis ciao, quoi, tu vois. C'est vraiment être dans une proactivité dans ta relation, et toi, dans ta façon de vivre ton engagement dans ton couple, et avec l'idée que bah, peut-être qu'un jour, ça marchera plus, et si ça marche plus, c'est pas grave, tu pourras partir. Voilà.
Ouais. En fait, mais... Attends, je fais une dernière question. Je pensais à la question dans le point de vue inverse, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent s'engager. Nous, ce qui est souvent le cas dans les podcasts, on a eu beaucoup d'invités qui avaient envie d'engagement et qui en face ont des gens donc qui comprennent pas. Tout à l'heure, tu parlais de, c'était un exemple dans l'absolu, d'un mec qui dit oui le lundi, non le mardi. Ou, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Ces filles, là c'est des filles, mais à ces personnes qui ont en face des gens dont l'impression qu'ils ne veulent pas s'engager.
Moi ce que je dirais, c'est que si c'est systématique et que tous les gens que tu rencontres sont comme ça, c'est que il y a une part de responsabilité personnelle, parce que on attire ce qu'on dégage et ce qu'on est. Et quand je dis de responsabilité, c'est pas pour être dans la culpabilisation, au contraire, la responsabilisation c'est l'inverse de la culpabilisation, parce que tu prends, à partir du moment où tu te rends compte que tu es en partie responsable de ce qui se passe, ça veut dire que tu as les armes, tu as les outils pour faire en sorte de faire changer les choses. Donc en fait, c'est vachement fort, c'est vachement puissant en fait d'être dans la responsabilisation. Donc c'est peut-être d'aller se questionner, est-ce que je suis vraiment prête en fait à vivre quelque chose si finalement je n'attire que des gens qui sont pas prêts à s'engager, ou des fuckboys ou ce genre de ou des fuckgirls, parce qu'il y en a aussi.
Fuckboy, c'est une nouvelle celle-là. Ok.
Tu vois, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur déjà. Après, des fois, c'est comme ça. En fait, ces gens-là, ils existeront toujours. La question, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu choisis de les laisser rentrer dans ta vie?
Ouais.
Et là, je pense que c'est ça la différence.
Ouais, d'accord.
Mais juste là, on parlait beaucoup de relations classiques, monogames. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui viennent te voir et qui te disent je suis libertin. Non, mais moi, je suis libertin, mais par contre, je le vis mal parce que, enfin, tu vois, je sais pas, il y a plein d'autres problématiques. En fait, c'est vrai que là, on a vraiment abordé la question du couple. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui, enfin, d'autres types de typologies de personnes qui viennent te voir?
Je sais qu'on a quelques couples polyamoureux, enfin, quelques personnes en couple polyamoureux qui nous suivent, avec qui on a discuté. Alors, eux, c'est pas des gens qui avaient des problèmes, donc on n'a pas forcément parlé de problématiques. On a eu des gens qui ont vécu des infidélités. Alors, du coup, je pense que ça rentre pas tellement effectivement là-dedans. Mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir aussi, dans le sens où, d'en parler et de dire aux gens, en fait, peu importe, t'es pas obligé d'avoir envie d'être dans une relation monogame. C'est pas grave. C'est pas le problème. En fait, finalement, c'est ta vie. Tu fais ce que tu veux. À partir du moment où tu fais les choses bien, dans le respect de l'autre, et que tu fais en sorte, de respecter chacun. Si toi, ton kiff de vie, c'est d'être dans une relation polyamoureuse, ou que ton kiff, c'est d'être dans une relation libertine, ou de ne pas être en couple du tout, peu importe. Enfin, en fait, on s'en fout. je pense qu'il faut déculpabiliser les gens là-dessus. En fait, la monogamie et le couple, ce n'est pas la seule voie qui existe. Finalement, tu fais ce que tu veux. C'est juste que quand tu fais les choses, c'est les faire en conscience et avec respect et en prenant ta part de responsabilité, quoi.
Bien sûr.
Ah ouais. Ouais. Parlons confinement maintenant.
Ouais.
Est-ce que le confinement a changé quelque chose dans ton boulot? Le temps file. Pascal avait raison. Est-ce que le confinement a changé quelque chose dans ton travail? Tu as noté quelque chose?
Au quotidien, Pas forcément, parce que moi, je travaille déjà de chez moi. Et c'est un travail que j'ai la chance de pouvoir faire aussi à distance. Après, je pense que la période de confinement fait qu'il y a pas mal d'idées et que c'est un peu prolifique en termes d'idées. Et c'est pour ça que là, on avait eu... En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui, dans cette période de confinement, avaient potentiellement envie de rappeler leur ex ou de retexter leur ex.
Ouais. Très grosse question là-dessus. On a eu énormément de questions de notre communauté. C'est quoi cette histoire de rappel d'ex? Tu peux nous briefer un peu dans tous les sens, dans les deux sens, c'est-à-dire est-ce que de la personne qui se fait rappeler par son ex, comment elle réagit, mais aussi la personne qui est confinée chez elle et qui a envie de rappeler ses ex, tu vois? Donc qu'est-ce que...
Disons que, alors si on commence par la personne qui a envie de rappeler, je sais que c'est... Enfin, c'est quelque chose, je pense sûrement une envie qui existait déjà avant le confinement, mais le confinement faisant qu'on est seul face à soi, si y a des choses qui ne sont pas forcément réglées, il peut y avoir des angoisses, tous ces genres de choses qui font qu'on a envie de faire ce genre de choses, de rappeler ou quoi. Et je pense que la question à se poser, c'est en fait, pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire parce que je m'ennuie et que j'ai envie de parler à quelqu'un, mais à ce moment-là, il vaut peut-être mieux texter ses parents?
Il y a quand même un gap entre un ex et ses parents. On peut pas dire la même chose.
J'exagère. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si c'est juste pour combler un vide à un moment donné, comment est-ce que tu peux remplir ce vide autrement? C'est la question que tu peux te poser, tu vois.
La nourriture.
Écoute,
le porno.
Non, mais si ça t'évite de retomber dans une relation qui potentiellement était toxique pour toi, tu vois, ouais. Je veux dire, il vaut mieux bouffer trois crêpes au Nutella, hein, c'est pas grave. Tu vois, c'est... Ouais. Après, tu vois, si c'est le rappeler l'autre, et ça c'est valable tout le temps, parce que tu veux faire repartir ta relation, parce que tu veux le rattraper, parce que ceci, cela, la question, toujours le questionnement de soi, c'est est-ce que déjà tu penses vraiment qu'entre. Aujourd'hui, et il y a 3 semaines, quand vous vous êtes quittés, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pourquoi est-ce que ta relation, elle s'est arrêtée, en fait? Enfin, voilà, parce que finalement, oui, il y a le manque et il y a le besoin de l'autre, mais en fait, si cette relation, elle s'est arrêtée à un moment donné, c'est qu'il y avait une raison. Donc, aller voir les raisons, ça peut être intéressant.
Et le là, confinement, c'est une bonne raison aussi de le rappeler, justement, quoi.
J'ai pas entendu ça.
Non, mais je disais, le confinement, ça peut être une bonne raison, ça peut te permettre de passer un peu de temps, quoi.
Oui, voilà, mais du coup, est-ce que tu as vraiment envie de passer ton temps finalement, il y a plein de façons de passer son temps, donc pourquoi est-ce que tu choisis celle-ci?
Je pense qu'au bout de, on est à 7 semaines de confinement, je pense que je peux comprendre. Après, moi, la question que je me pose, c'est que là, tu as parlé, par exemple, de l'éventualité de rappeler un ex de 3 semaines, mais qu'est-ce qu'il en est pour ceux qui rappellent leurs ex d'il y a 7, 8, 10 ans? Il y en a certaines certains qui ont rappelé des ex du lycée, tu vois, alors qu'ils sont adultes aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'inspire?
C'est toujours pareil, c'est quelle est la démarche derrière? Est-ce que c'est juste pour prendre des nouvelles ou est-ce que c'est pour essayer de réengager quelque chose? Après, quand ça fait 10 ans, potentiellement, chacun peut avoir évolué et les raisons qui ont fait que tu t'es séparé il y a 10 ans, elles ont peut-être changé aujourd'hui. Donc, pourquoi pas quand c'est sur des trucs hyper, des laps de temps très larges?
Tu penses que ça peut vraiment être pour prendre des nouvelles? Il n'y a jamais un arrière-texte derrière un rappel d'ex qui veut dire je prends des nouvelles en façade, mais en vrai, derrière, je tâte le terrain pour voir s'il y a moyen?
Je sais pas, je pense qu'il y a plusieurs cas. Je pense qu'il y a ce cas-là, évidemment. Je pense qu'il y a « je prends des nouvelles », je pense qu'il y a « il m'a brisé le cœur et je prends des nouvelles pour lui montrer que ma vie est vachement mieux que la sienne ». Enfin, en fait, il y a un petit peu tous les...
D'accord,
ouais. ...possibles, je pense. Hein, mais...
Toi, tu préconises après... de... Pardon, vas-y.
Non, vas-y.
Oui, toi, tu préconises de ne pas rappeler, hein, de manière générale.
Je préconise de ne pas rappeler si c'est pour essayer de relancer quelque chose, parce qu'encore une fois, si la relation s'est arrêtée, c'est qu'il y a une raison ou plusieurs et du coup c'est mieux de rester là,
même si c'est... Toi, tu penses qu'une relation qui s'est arrêtée ne peut pas reprendre? Les personnes, elles peuvent pas, genre, de leur côté, suite à la séparation, prendre des chemins ou prendre conscience de choses qui font qu'au bout d'un certain temps on se rappelle, on a passé par exemple un certain temps en confinement, on a peut-être un rapport à la vie tout simplement qui a changé et on se dit tiens, je vais le rappeler, peut-être que lui aussi il a changé. Et ça, pour toi, ça te paraît pas...
Je pense qu'il y a des cas où ça peut arriver parce qu'il n'y a jamais de 100%, tu vois. Mais je pense que majoritairement, les gens qui sont restés pendant un certain temps ensemble ou pas, enfin en tout cas, et qui se séparent pour des bonnes raisons, quand ils se remettent ensemble, ça va remarcher pendant un temps, mais je ne sais pas comment expliquer. C'est très, très, très difficile de changer une dynamique relationnelle. que ce soit une dynamique amoureuse, que ce soit une dynamique amicale, que ce soit une dynamique même familiale. Enfin, il n'y a qu'à voir, on est tous des adultes. Quand on retourne chez nos parents, on a tous l'impression d'avoir 15 ans et on s'engueule avec eux comme si on avait 15 ans parce que c'est la dynamique relationnelle, tu vois. Et du coup, c'est très difficile de faire changer ça. Et pour que ça change, il faut que tout le monde ait fait un très gros travail sur soi. Donc, pour moi, c'est un petit peu les prérequis. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui remplissent ces prérequis avant de se remettre avec leurs ex.
D'accord.
OK.
Et en ce qui concerne le fait d'être rappelé par un ex, justement, qu'est-ce que tu préconises quand ça arrive? Quel conseil tu peux donner? Voilà, moi, je me fais rappeler par une ex, par exemple.
Il y a des prénoms, peut-être, non?
Non, ou mettons, voilà, t'as une nana qui est en coaching avec toi, qui dit, ben voilà, il y a machin et machin qui m'ont rappelé. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire? Déjà, est-ce qu'il faut répondre?
Après, c'est difficile parce que ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, mais je dirais que... En fait, ça dépend qui a quitté l'autre, pourquoi l'autre y revient. Est-ce que l'autre t'a fait beaucoup de mal? Est-ce que la relation était toxique? Enfin, tu vois, il y a plein de choses là qui changent, mais je dirais que... Idéalement, je pense que de ne pas répondre, c'est la meilleure chose à faire potentiellement.
Oh, non, mais, dur quand même.
Mais après, c'est difficile. Non, mais c'est, encore une fois, ça dépend. C'est pour ça que je dis ça dépend.
Oui, bien sûr, on entend bien ça.
Qui te rappelle, peut-être qu'effectivement, sachant qu'il
a... Là, vaut mieux pas répondre, quoi.
Voilà, c'est peut-être mieux de ne pas répondre. En fait, ce qu'il faut réfléchir, je pense, de toute façon, en fait, pour ne pas mettre des trucs genre il faut pas, c'est pas tellement ça, c'est... de réfléchir quand tu vas faire l'action, que ce soit de rappeler ou de ne pas rappeler, qu'est-ce qui va te permettre, toi, de te sentir mieux, en fait, et de te sentir le plus apaisé et le plus serein, en fait, après ça. Et avec un petit peu de recul, c'est-à-dire de pas, genre, t'as reçu le texto, et genre, là, tu te dis, je vais répondre tout de suite parce que t'as l'impression que ça va aller mieux direct, mais de prendre un petit peu de temps pour laisser reposer les choses, pour sortir du côté émotionnel qui prend le dessus quand on reçoit ce genre de message ou ce genre d'appel, laisser reposer. Et quand, on va dire, le cerveau et la rationalité a repris un petit peu le dessus, là, d'évaluer la situation et de se dire, est-ce que si vraiment je réponds à ce message, si je remets en route cette relation, cette conversation, comment est-ce que je vais me sentir après ça? Est-ce que je serai vraiment mieux? Je pense que c'est...
Ouais, on termine sur les projets de Selfblog Project. Qu'est-ce qui va arriver là après le confinement? Déjà, il va y avoir plein de ruptures, donc plein de boulot, non?
Ouais, bah du coup, en fait, c'est pas fait exprès. en fait, on voulait lancer là au mois d'avril un programme post-rupture, donc on va le lancer, je pense, début juin en post-confinement.
Ok.
Donc voilà, ça tombera à pic.
Okay. Post-rupture, c'est quoi? C'est une routine pour se remettre sur le marché ou pour se mettre bien? C'est quoi exactement? Ça consiste
alors,
en quoi?
Alors, c'est 12 semaines, donc c'est assez long, mais en gros, c'est pour aller travailler sur soi, déjà accepter la rupture, aller accepter la solitude aussi, le fait d'être seul, son célibat retrouvé ou son célibat découvert, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vécu une vie d'adulte en étant célibataire. Aller voir que ce n'est pas grave d'être célibataire et qu'au contraire, ça peut être génial parce que tu peux faire plein de choses, tu peux te découvrir. Et en fait, c'est surtout comment est-ce que tu vas tirer le plus de positif de ce moment-là, de la rupture et de la phase de célibat pour aller potentiellement, dans un futur plus ou moins proche, te réengager dans une autre relation, mais en ayant fait le bilan sur toi, en ayant appris à t'aimer et en sachant ce que tu veux vraiment, en fait, dans une relation, ce qui est important pour toi.
Très bien.
Ouais.
Voilà. Dan, une dernière question, Dan? Non,
okay. Non, bon, écoute,
merci beaucoup, Claudia, alors.
Merci à vous.
Super. On est à la fin de l'épisode. Ben, on rappelle pour ceux que ça intéresse, hein, ton compte Instagram, c'est selfloveprojectfr.
Yes.
Sur Instagram. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis voilà, ben, merci. On rappelle donc que nos interventions représentent nos points de vue à nous et ne sont en aucun cas des généralités ou des jugements. Merci à tous d'avoir été présents aussi nombreux. Hein, comme d'habitude, on vous embrasse tous. On a vu que vous étiez là. On se retrouve lundi prochain à 21h sur notre compte Instagram pour un nouvel épisode des Gentilshommes en confinement avec un sujet qui intéresse énormément de monde. Hein. Nous aurons une invitée qui a... Je présente ou tu veux le dire, Connie?
Vas-y, ça te fait plaisir. Elle s'appelle Anne.
Pour une fois, elle s'appelle Anne et elle a bravé le confinement pour aller rencontrer un date. Voilà, donc elle nous en dira plus lundi à 21h. Voilà. Sinon, on compte sur vous pour partager ce podcast avec votre entourage. On rappelle l'existence de notre page Tipeee pour ceux qui veulent nous soutenir. Voilà, merci à toute la team Gentilhomme, Mitch, Cynthia, Sabine. Et puis merci les gars, Connie et Dan.
Merci à toi.
Et merci Claudia d'être venue nous parler comme ça.
Merci.
Merci Claudia. Ciao.
Allez, ciao.
Ciao.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.